Cyril Castin m'accueille à Sceaux, dans sa magnifique maison de bois, à prendre le thé sur un tatami. Il pratique la méditation et invite ceux qui le souhaitent à pratiquer avec lui. Très influencé par la culture japonaise, il pratique aussi le shiatsu. Écoutons-le parler de cette philosophie qui nous intéresse particulièrement cette semaine sur Radio M. Ce matin, je me suis rendue à Sceaux pour rendre une petite visite à Cyril Castin. Bonjour, vous êtes, vous n'aimez pas dire enseignant, mais en tout cas vous pratiquez et vous permettez à des élèves de pratiquer avec vous la méditation.
Oui, alors en fait ce n'est pas des élèves véritablement, c'est des personnes qui viennent pour expérimenter ensemble l'expérience justement de la méditation, qui est simplement l'expérience de la vie, qu'est-ce que c'est. Donc voilà, donc parmi ceux qui pratiquent avec moi, il y a des personnes qui pratiquent depuis des fois 40 ans, des fois des débutants complets. Donc voilà, c'est un échange en fait et un partage de cette expérience qui est véritablement la méditation. C'est un atelier plus qu'un cours.
Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière le mot méditation? C'est quoi pour vous la méditation?
Alors, il peut y avoir beaucoup de définitions différentes de la méditation. Pris dans son sens profond, je pense que la méditation, il faut vraiment le voir comme un retour à ce que l'on est profondément, à notre profonde nature, comme disent les bouddhistes, mais comme d'autres traditions spirituelles le disent aussi. C'est un retour vraiment à notre état naturel, qui n'est pas seulement un état de bien-être tel qu'on le recherche habituellement à travers la méditation, mais c'est vraiment l'état de paix qui accueille tout ce qui est tel que c'est ici, maintenant. Donc c'est vraiment un retour conscient à notre vraie nature, une présence, une conscience du moment présent, ici et maintenant. Ça, c'est véritablement, la définition de la méditation, donc qui n'est pas du tout liée à une technique spécifique ou à une posture, mais qui est bien ce que l'on est tous à chaque instant.
Et s'accepter aussi tel qu'on est.
Bien entendu, revenir à ce que l'on est, à revenir au moment présent, c'est s'accepter. Ça veut dire pas s'accepter dans le sens de tolérer obligatoirement tout ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est une ouverture complète à nos perceptions. Donc à ce que l'on est ou plutôt à ce que l'on croit être. Parce que dans la méditation, il y a quand même cette dimension spirituelle. Telle que le Bouddha définissait la souffrance, il disait qu'elle était fondamentalement l'ignorance de notre vraie nature. Donc c'est-à-dire que ce que l'on croit être est la cause fondamentale de notre souffrance. Donc s'accepter, c'est voir ce que l'on croit être pour revenir à ce que l'on est véritablement.
Quels sont les conseils que vous pourriez donner, par exemple, aux auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie, peut-être chez eux, comme ça, de s'initier un peu à la méditation?
Alors, je pense que, bien entendu, un bon livre peut être utile pour débuter, avec de bons conseils. Mais je pense que, vraiment, il faut aller rencontrer les personnes qui méditent, pas obligatoirement justement des maîtres spirituels ou des maîtres de méditation, bien entendu. Si on a l'opportunité de pouvoir les rencontrer, c'est une grande chance, tant mieux. Mais chacun, à son niveau, peut rencontrer quelqu'un qui l'aide. Et il faut savoir partager ses expériences parce qu'il y a beaucoup de pièges dans la méditation.
Le plus grand piège, par exemple, ça pourrait être quoi?
Le plus grand piège, mais qui est inévitable à la fois, il faut y passer, c'est de se créer ses propres conditions, son petit coin de méditation avec son moment où l'on se sent bien avec l'ensemble. Voilà, c'est ça. Donc c'est à la fois bien dans le sens où c'est un moment de détente et au moment où on revient à la conscience du présent, mais si on en fait du coup un conflit avec l'extérieur, une situation bien spécifique qui nous exclut ou en tout cas qui dit dans ce moment-là je suis bien, dans les autres moments je suis pas bien, on peut créer une sorte de dépendance à une pratique qui simplement nous sort du quotidien. Alors que la méditation est une ouverture complète à ce qui vient tel que ça vient. Donc si la pratique de méditation est une pratique qui fait que l'on est de moins en moins bien dans notre quotidien, on peut se poser des questions.
Alors vous, votre, on va dire le déclic, ça a été quoi? Quelle a été votre démarche?
Ouais, il peut y avoir plusieurs formes de quand on vient à la méditation. Pour ma part, j'ai pas mal voyagé en Asie et aussi une certaine forme de souffrance. C'est le point de départ de beaucoup de choses, la souffrance. C'est ça qui nous permet de réagir. Et voilà, de se demander, mais finalement, c'est quoi la vie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que la vie, tout simplement? Et je pense que ce questionnement nous amène petit à petit à porter de l'attention sur les choses et à comprendre de plus en plus profondément ce que l'on est, qui peut jamais être compris intellectuellement, mais qui est vraiment une expérience. Ce que l'on est ne peut jamais être pensé, mais par contre, ce que l'on pense être n'est pas ce que l'on est.
On est un peu parasité.
On est complètement parasité par les pensées, oui, qui sont constamment en train justement de passer du passé au futur et qui nous forgent une image en fait de la réalité qui est une image, qui n'est pas fausse en soi, mais ce n'est pas la réalité. Et c'est cette identification à cette fausse image qui nous amène cette ignorance fondamentale de ce qui nous sommes et qui nous fait croire plein de choses et qui est la source même de la souffrance, la racine même de la souffrance.
Alors nous allons terminer notre thé. Alors je précise que donc, nous sommes installés sur un tatami qui en fait là, c'est votre table en fait.
Oui, on mangeait souvent, au Japon on mangeait souvent par terre sur les tatamis. En fait les pièces sont faites de tatamis puisqu'on ne donne pas même dans un appartement traditionnellement, c'est pas des mètres carrés mais c'est des nombres de tatamis en fait dans la maison.
Donc, alors, ce qu'on appelle tatami, c'est un rectangle comme ça ?
Oui, c'est ça. D'accord. C'est un rectangle qui, à la base, traditionnellement, a une dimension bien précise. Donc, on donnait les pièces en nombre de tatami. Après, avec le Japon moderne, il ne restait plus qu'une pièce de tatami en général dans les maisons.
D'accord.
Des fois, maintenant, il n'y en a même carrément plus. Mais traditionnellement, oui, tout se fait sur les tatamis. J'aime bien, on est par terre, on est bien ancré dans le sol.
Oui.
En général, l'odeur du tatami est bonne, c'est de la paille de riz. Qui prend beaucoup l'humidité et qui absorbe l'humidité de l'air. Donc voilà, c'est une ambiance très particulière que j'ai beaucoup appréciée au Japon et que j'aime bien retrouver ici.
D'ici une petite heure, vous pourrez entendre la suite de cet entretien et en savoir un peu plus sur le shiatsu, si vous ne connaissez pas encore cette discipline. Alors restez en éveil et ne bougez plus.